Europe 1, il est 9h. Il est 8h.
On est conscient des risques de fraude qui puissent exister. Nous, ce qu'on veut, c'est que la démocratie existe et que Marseille, ce ne soit pas une terre de non-droit.
Michèle Rubirola sera-t-elle la bonne maire pour Marseille ? Sondage Europe 1, sa liste de gauche est 5 points devant celle de Martine Vassal, qui se défend de toute manipulation des procurations. Autre élection, autre affaire qui avait nui à la droite, 2017, François Fillon et une procureure qui révèle aujourd'hui avoir subi des pressions, un rebondissement que l'avocat de l'ancien Premier ministre compte bien saisir au vol.
Ce qui est certain, c'est que nous avons une femme qui a fait état de multiples pressions sur elle dans un dossier sensible et emblématique, et on ne peut pas s'arrêter là.
On s'arrête là pour les écouvillons, les cotons-tiges géants des tests de Covid bientôt remplacés par un dépistage salivaire, moins invasif, moins cher et plus rapide. Le grand rush dans les centres de contrôle technique automobile, en espérant pour vous que ça finisse comme ça.
La voiture est propre, il n'y a rien à signaler. Vignette sur le pare-brise, après à rouler.
Et puis, la commémoration de la fin de l'esclavage. Nous serons aux États-Unis entre campagne présidentielle et réflexion sur le racisme d'aujourd'hui.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des affaires européennes. 8h30, bientôt la fin de la Convention citoyenne pour le climat. Vous en attendez quoi ? Est-ce qu'on va voter par référendum ? Laurence Tubiana, la coprésidente du comité de gouvernance de cette convention, avec nous, avec vous, au 39-21. 9h moins le quart, Nicolas Canteloup, bien sûr, et sa revue de presque. Il est 8h01 sur Europe 1. Très bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, François Geffrier.
Phocéenne, Marseille est-elle aussi la cité des faux électeurs ? La campagne du second tour est bousculée depuis une semaine et l'ouverture d'une enquête pour faux au sujet de procuration pour le vote de dimanche avec, on l'a appris hier, les résidents d'un EHPAD dans le rôle de complices involontaires.
Après 25 ans de mandature, Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille, Europe 1 vous dévoile ce matin un sondage BVA avec la Tribune qui donne la liste de gauche à 35% d'intention de vote devant les Républicains 30% et le Rassemblement National 20%.
Nathalie Chevance, la campagne a subitement changé de thème.
Le printemps marseillais se sent pousser des ailes. Voilà que la gauche s'est engagée depuis quelques jours dans une grande opération de vérification des quelques 5000 demandes de procuration déjà déposées pour le deuxième tour. Tout contrôler, les noms, les adresses, et l'occasion pour Michèle Rubirola de tirer à boulet rouge sur le camp d'en face qu'elle accuse de vouloir tricher.
Attention, on est conscient des risques de fraude qui puissent exister, qu'il n'y ait pas de bourrage d'urne. Quand on voit ce qu'ils ont été en capacité de faire dans les EHPAD, c'est proprement scandaleux. Aller abuser de l'incapacité de certaines personnes, c'est quelque chose pour moi qui est inconcevable. Il risque d'y avoir des agressions. Nous, ce qu'on veut, c'est que la démocratie existe et que Marseille, ce ne soit pas une terre de non-droit.
Une campagne de plus en plus violente et Martine Vassal contre-attaque, droite dans ses bottes, convaincue de remporter la victoire, malgré tout.
Aujourd'hui, je rattrape la gauche, je vais continuer, je vais même accélérer les rumeurs. L'atteinte à ma probité, c'est inacceptable. Je n'ai jamais triché, je n'ai jamais fraudé, je me suis toujours engagée pleinement et surtout, je ne lâcherai rien.
Martine Vassal prête à répondre aux questions des enquêteurs pendant que le Printemps marseillais et le RN envisagent des dépôts de plaintes pour dénoncer la chasse aux procurations. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Tous les chiffres du second tour à retrouver en détail sur europe1.fr, un nouveau sondage Europe 1 lundi sur les municipales à Paris.
Est-ce la preuve d'une justice aux ordres, comme le laissent entendre la France Insoumise et le Rassemblement National ? L'ancienne procureure du parquet national financier qui enquêtait en 2017 sur l'affaire François Fillon a révélé avoir subi des pressions.
Déclaration d'Éliane Houlette il y a quelques jours devant la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice. Ce matin, c'est sur Europe 1 que réagit l'avocat de François Fillon, Antonin Lévy. Il voit là une confirmation de sa plaidoirie lors du procès de l'ancien candidat de la droite.
On leur a expliqué pendant 3 semaines que cette enquête était à charge, qu'elle était folle et qu'elle n'avait qu'un seul but, c'était abattre François Fillon. C'est la raison pour laquelle elle était à la limite de la malhonnêteté intellectuelle, et ces pressions qu'a subies la procureure dès le début du dossier viennent confirmer le fait que cette enquête a été biaisée dès l'origine. Moi, je veux juste qu'on m'explique pourquoi, à la fin du gouvernement Hollande, alors qu'il reste concrètement quelques semaines avant que le gouvernement ne change, on doit être tenu au courant des auditions, des notes, des conseils, des mis en cause. Et si c'est ça, la politique pénale du gouvernement, c'est un sujet. Ce qui est certain, c'est que nous avons une femme qui a fait état de multiples pressions sur elle dans un dossier sensible et emblématique, et on ne peut pas s'arrêter là.
Maître Antonin Lévier, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin à 6h40.
Europe 1, il est 8h04.
Des nouvelles rassurantes venues de Chine. Le regain des contaminations de coronavirus à Pékin est sous contrôle, selon les autorités. Tandis qu'aux États-Unis, malgré le rebond observé par endroits, il n'est pas nécessaire de reconfiner. C'est ce que déclare Anthony Fauci, l'épidémiologiste en chef qui conseille la Maison-Blanche.
En France, plus que 750 patients en réanimation. On est à 73 800 personnes sorties guéries des hôpitaux depuis début mars. Pour les autres, c'était peut-être votre hantise. Au-delà de tomber malade, subir un test PCR. derrière avec ce prélèvement par les narines. Un nouveau test doit être commercialisé dans les prochaines semaines.
Il est baptisé EasyCov et il est censé être tout aussi fiable. Explication de Mathieu Charrier.
Un test au résultat beaucoup plus rapide, moins cher et moins désagréable que le test PCR. Voilà ce que promettent les concepteurs d'EasyCov. Un résultat plus rapide d'abord, en une heure environ, contre 24 heures pour un test PCR. Qui plus est, EasyCov sera deux fois moins cher, facturé 45€. Et puis surtout, il est moins désagréable, car pas besoin d'enfoncer une sorte de grand coton-tige au plus profond du nez. Il suffit de gratouiller sous la langue du patient et de chauffer le prélèvement à 65 degrés avec des réactifs pendant 30 minutes. Un test qui serait donc plus facilement déployé dans les aéroports par exemple, pour tester des voyageurs en provenance de pays à risque, ou dans les équipes de sport avant la reprise de l'entraînement. Problème, malgré une première étude qui évalue l'efficacité d'EasyCov au même niveau que celle d'un test PCR, ce test salivaire ne sera pas remboursé par la Sécurité sociale et puis surtout, son déploiement semble prendre plus de temps que prévu. Il ne sera finalement pas disponible avant la fin du mois.
Interdire la pub pour les véhicules les plus polluants, arrêter tout nouveau projet d'aéroport, lancer un plan d'investissement pour le ferroviaire. Voici quelques-unes des 150 propositions des 150 citoyens tirés au sort et membres de la Convention citoyenne pour le climat. Leurs propositions doivent être toutes dévoilées lors d'une ultime session aujourd'hui et ce week-end.
C'est un simple autocollant qui peut mettre votre voiture à l'arrêt, la vignette du contrôle technique. Si la vôtre est arrivée à échéance pendant le confinement, il y a un nouveau délai de plus de 100 jours. Il faut dire que les centres de test sont débordés.
Bah voilà, ma voiture vient de rentrer dans le garage du contrôle technique. Et il était temps, bah moi c'était en avril que je devais le faire. J'attends en général la dernière limite pour le faire. Donc là c'est en plein confinement, bah j'ai gagné 2 mois réglementaires.
La voiture est propre, elle n'a rien à signaler. Vignette sur le pare-brise après à rouler.
Demain matin, j'ai 9h45 si vous voulez. Ils veulent tous passer leur contrôle technique. 15 jours, 3 semaines qu'on ne s'arrête pas. Ouais. On fait des 8h, 18h, on essaye de manger une petite demi-heure. Voilà, on est aux alentours de 40-45 véhicules par jour. Et d'habitude, on peut être à 30-35 véhicules. Quoi. On est vraiment submergé par le travail. Et puis, heureusement que l'État a pu enfin nous donner des nouveaux délais pour les clients, parce que sinon, avant le 23 juin, passer des millions de véhicules, ça aurait été vraiment impossible pour les centres de contrôle technique. Les gens nous laissent un peu respirer.
Reportage Europe 1 d'Hélène Terzian.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. L'idée d'une indemnisation liée à l'esclavage aux États-Unis.
Et puis les suites des règlements de compte entre Donald Trump et ses anciens conseillers, c'est toujours une forme de vengeance froide.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h09, la suite du journal François Geffrier, Mathieu Béliard.
On l'appelle le jour de l'émancipation, commémoré tous les 19 juin pour célébrer l'abolition de l'esclavage aux États-Unis il y a 155 ans.
Le contexte de 2020 est celui de la mort de George Floyd et de la campagne présidentielle. Certains ont lancé l'idée d'une indemnisation qui prend corps, comme on va l'entendre avec ce reportage de Xavier Yvon pour Europe 1.
C'est une pierre tombale émoussée, sans date de naissance, dans un petit cimetière au bord de l'Hudson River.
Richard Jenkins.
L'homme enterré ici s'appelait Richard Jenkins, même lui ne savait pas quand il était né. Il était l'un des esclaves de l'église Saint James, aujourd'hui dirigée par le révérend Chuck Cramer.
Most of the oldest churches, Saint James for example,
cette église, comme tant d'autres, a été construite par des esclaves, dit le pasteur. Son clergé, raconte-t-il, a soutenu et justifié l'esclavage pendant des centaines d'années. Alors aujourd'hui, le diocèse épiscopal de New York s'est engagé à réparer ce mal avec un fonds de plus $1 million pour la communauté afro-américaine. D'autres institutions, notamment une université, ont entamé la même démarche, mais l'initiative devrait être nationale, disent les partisans des réparations pour l'esclavage. Shivona Newsom, par exemple, fondatrice du mouvement Black Lives Matter à New York, elle est candidate au Congrès dans son Bronx natal et elle fait campagne pour une indemnisation généralisée pour les descendants d'esclaves. Les Noirs ont construit ce pays gratuitement. Il est temps de payer des compensations, de l'argent, explique-t-elle, qui permettrait de combler le fossé économique hérité de l'esclavage. Aujourd'hui, aux États-Unis, une famille blanche est en moyenne 10 fois plus riche qu'une famille noire. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
On reste aux États-Unis. On vous en parlait hier et cela a tenu en haleine les télés américaines toute la journée. Le livre brûlot de l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton.
Vincent Hervouet, il semble que critiquer Donald Trump, ça rapporte gros.
2 millions de dollars, c'est l'avaloir versé par l'éditeur. La Maison-Blanche a saisi la justice pour retarder la publication. C'est une publicité supplémentaire. Et les bonnes feuilles dans les journaux progressistes, c'est le bonus. Les politiciens de droite adorent être applaudis par les intellectuels de gauche. John Bolton réussit donc sa vengeance. Il étrit Donald Trump, il débine la famille et il décrit la Maison-Blanche comme une maison de fous. Mais ce n'est pas le premier.
Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans ce livre ?
Que Trump ne pense qu'à lui et à sa réélection, qu'il a léché les pieds de Xi Jinping pour que la Chine importe du blé, du soja, du lait avant la présidentielle, qu'il a envisagé de se retirer de l'OTAN, qu'il confond intérêt privé et public, qu'il a offert le disque dédicacé d'Elton John, Rocketman, à Kim Jong-un. Bolton déteste le Nord-Coréen qu'il a traité de déchet humain. Ça prouve que l'ancien conseiller n'est pas entièrement mauvais, mais les progressistes qui jubilent en le lisant ont la mémoire courte. John Bolton est resté un an et demi avec Donald Trump. Le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, c'est lui. Si Trump l'avait écouté, le Pentagone aurait bombardé l'Iran pour l'empêcher d'avoir la bombe. Pareil en Corée ou au Venezuela. Le livre ne signifie pas que le parti républicain lâche Donald Trump, seulement qu'il a déçu les néocons parce qu'il est le contraire d'un va-t-en-guerre.
Le regard international de Vincent Hervouet tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.
Rarement un jeu vidéo aura suscité autant d'attentes. Sorti aujourd'hui de The Last of Us, deuxième partie, sur PlayStation 4.
Oui, le premier avait fait 17 millions de ventes. Alors c'est dans un futur post-apocalyptique que Clément Le Saffre a pu tester ce jeu pour Europe 1.
Je vais les trouver. Je vais les tuer.
The Last of Us, c'est d'abord une histoire de vengeance. Ellie, l'héroïne, se lance à corps perdu dans une odyssée à travers les États-Unis de 2038, dévastée par une pandémie qui transforme les humains en mutants assoiffés de sang. Quant aux survivants, ils forment des milices qui font régner la terreur.
Comment tu nous as trouvés ?
Tu m'arrêteras pas.
Alors attention, The Last of Us est très violent. L'hémoglobine coule à flot et le jeu est d'ailleurs interdit aux moins de 18 ans, ce qui n'empêche pas le scénario d'être bouleversant. Toute la force du jeu réside dans l'équilibre entre séquences à vous glacer le sang et moments d'émotion pure. Et puis, The Last of Us est une merveille visuelle. Les développeurs ont reconstitué la ville de Seattle avec bâtiments effondrés, voitures abandonnées et nature qui a repris ses droits. Malgré quelques longueurs, on prend un vrai plaisir à explorer ce monde à la fois terrifiant et fascinant.
Terrifiant.
Ça fait peur quand même. Je connais pas
Saffre.
Du tout, mais j'ai peur maintenant. Merci François Geffrier. Vous savez qu'il y a des enfants qui écoutent à cette heure-ci. Il est 8h14, vous êtes sur Europe 1. C'était le journal de 8h. 8h14 donc, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'Europe face à son histoire, le plan de relance post-Covid sera-t-il adopté? Le sommet européen du jour est crucial et le sursaut est à portée de main. Notre invité, Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux affaires européennes.
A tout de suite sur Europe 1.
Il est 8h17, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et votre invitée Sonia Mabrouk, c'est Amélie de Montchalin, secrétaire d'État en charge des affaires européennes.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour à vous Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Nous allons largement évoquer l'actualité européenne du jour, mais tout d'abord, l'ancienne chef du parquet financier qui reconnaît avoir subi des pressions hiérarchiques dans l'enquête sur l'affaire François Fillon. Et si les dés de l'élection présidentielle avaient été pipés ? C'est grave.
Oui, moi je suis très attachée à l'indépendance de la justice et aujourd'hui je suis ministre, je suis membre du l'exécutif, comme on dit. Et donc, par définition, je ne peux pas, ici, devant votre micro, faire des commentaires sur des déclarations qui ont été faites dans une audition à l'Assemblée nationale sur une affaire judiciaire.
Mais c'est troublant, c'est grave.
S'il y a une suite, elle doit être judiciaire.
L'actualité du jour, elle est donc européenne. C'est un sommet européen crucial. Est-ce qu'un accord sur le plan de relance avant l'été, c'est possible ou c'est illusoire?
C'est nécessaire. Il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, tous les pays européens font face à la crise qu'on connaît. Tous les pays, toutes les entreprises, tous les salariés voient que nous avons besoin de relancer notre économie. On a besoin de protéger nos emplois, on a besoin de relancer l'économie, on a besoin de construire l'avenir.
Oui, mais il faut aller vite pour avoir le plus d'impact sur la relance économique. D'où ma question, avant l'été, c'est possible?
Et donc on n'a pas le choix. Si ce plan de relance européen sur lequel on se bat, sur lequel le président de la République, sur lequel la chancelière Merkel, sur lequel la Commission européenne, sur lequel une majorité aujourd'hui d'États européens est d'accord, si on n'est pas capable d'avoir cet argent pour la relance au moment de la relance, bah, on n'est pas à la hauteur de nos responsabilités. Vous savez, le président, ça ne fait pas 3 mois, 3 semaines qu'on se bat, ça fait 3 ans qu'il a pris à bras le corps ce combat d'une Europe forte qui nous protège.
Oui, mais c'est...
Et donc on a fait un chemin, regardez, en quelques mois, on a fait un chemin immense.
Non mais maintenant, l'enveloppe, Amélie de Montchalin, 750 milliards, très concrètement, est-ce que ce sont des prêts qui devront être remboursés ou bien des subventions, des transferts?
L'accord franco-allemand, qui est inédit, qui est historique et qui nous donne beaucoup de force, c'est 500 milliards de subventions budgétaires pour aider les régions les plus touchées, pour aider les secteurs les plus touchés à repartir.
Subventions, dites-vous, mais moi j'ai entendu le Premier ministre suédois qui est très clair, il ne parle que de prêts et qui dit prêts dit
remboursement.
Mais de toute façon, il n'y a pas d'argent magique. L'argent, on le remboursera. Ce qu'on dit, c'est que si on s'endette ensemble, si on lève de l'argent ensemble, si on investit partout en Europe, là où c'est le plus nécessaire, eh bien, il faudra qu'on rembourse au moment venu, pas demain. On est en train de parler d'après 2028, quand l'économie ira mieux. Et qu'on rembourse comment ? Nous, en France, on pense qu'il faut qu'on le rembourse avec des ressources européennes, avec des choses qui nous permettent de gagner en justice fiscale, la taxe GAFA, avec des choses qui soient cohérentes avec notre transition écologique.
Vous êtes favorable à un impôt aux frontières. Avec un impôt européen pour rembourser la dette, comme le dit d'ailleurs le commissaire Thierry Breton ?
Je ne parle pas d'un impôt européen, je ne parle pas d'aller taxer encore plus les ménages et les entreprises. Mais on a aujourd'hui en Europe des gens qui bénéficient au fond de notre prospérité européenne. Les GAFA, on a à nos frontières à créer ce qu'on appelle une frontière verte. Parce qu'on ne peut pas imposer, nous,
attendez,
à
mais
nos
rien
entreprises.
N'est sûr. Là, rembourser comme ça, c'est ne pas être sûr de rembourser si vous attendez tout cela.
Non, mais d'abord, sur ces sujets-là, ça progresse vite. Parce que tous les États européens comprennent bien qu'on ne peut pas être souverain, on ne peut pas être indépendant, on ne peut pas réussir notre transition écologique si on se laisse, voyez, remplir de biens qui sont produits à l'autre bout du monde sans nos normes.
Attendez, tous les pays européens, citons les pays dits frugaux, maintenant on les connaît, hein, les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche, la Suède, qui redoutent, alors ils ne sont pas contre Amélie de Montchalin aider, évidemment, mais ils redoutent que les aides soient mal utilisées et que tout cet argent soit dépensé en vain. Franchement, est-ce qu'ils ont tort ?
Ils ont raison sur un point, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui va refaire fonctionner tout seul le système. Tous les pays aujourd'hui, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, cette crise, elle a montré des fragilités. Elle a montré qu'on avait des choses à réformer. Pas parce que Bruxelles nous l'imposerait, mais parce qu'on voit bien que cette crise, elle nous montre que parfois...
Voilà le nœud du problème. Vous nous dites que pour qu'il y ait ce plan de relance, pour qu'il soit utile, il faut qu'il y ait des réformes derrière pour certains pays.
J'écoute le Premier ministre italien. Et il nous dit, voilà, j'ai infiniment besoin de remettre en route mon économie, mon industrie. Mais l'Italie ne refonctionnera pas si, en même temps, il ne fait pas une réforme de sa bureaucratie, de son système judiciaire. Il le fait pour les Italiens. Et donc, ce que nous disons tous aujourd'hui, notre objectif, c'est une Europe forte, qui protège chacun
J'ai
des
compris.
Pays.
Mais dites-nous clairement, est-ce que si les transferts, si les futurs transferts de fonds seront assortis d'une obligation de réformer pour les États, notamment du Sud, qui sont jugés trop dispendieux, est-ce que ça sera écrit noir sur blanc ? On vous donne l'argent si vous faites des réformes structurelles.
Non, on ne va pas rentrer dans une logique qui était celle, vous savez, de la crise grecque, de la Troïka, de la mise sous tutelle. On est dans la démocratie et on fait des réformes pour nous-mêmes. Quand le président de la République, avec Olivier Véran, ouvre aujourd'hui un grand chantier sur l'investissement, la transformation de notre système hospitalier. C'est une réforme, on le sait, qu'on doit faire depuis longtemps. Les soignants, ils le demandent depuis longtemps. On a besoin aussi d'avoir une santé plus proche des territoires. On le fait pour nous. Et on va d'ailleurs le faire avec l'argent du plan de relance.
Ça, ce sont deux mots.
C'est pas
un préalable. Mais les pays que je viens de citer voudront que ce soit écrit noir sur blanc qu'il y ait ces réformes-là pour accepter tout à l'heure le plan de relance.
Moi, j'étais aux Pays-Bas, j'étais en Autriche.
Vous avez essayé de les convaincre. Hein.
J'ai essayé d'abord de comprendre ce dont ils avaient besoin pour que la population néerlandaise voit que ce plan était aussi pour elle. Comment les entreprises néerlandaises en ont bénéficié ? Parce que l'Europe, elle se construit dans l'intérêt de chacun. Vous savez, cette vision...
On est loin de l'adhésion des opinions publiques de ces pays-là, franchement.
C'est pas vrai ?
Ah bon ? Ils sont d'accord pour que l'argent soit donné sans réforme structurelle des pays du Sud ?
Ce que je vous dis, c'est que les entreprises néerlandaises, les entreprises autrichiennes, suédoises, danoises, elles savent que leurs clients, que leurs fournisseurs sont partout en Europe, et y compris en Italie. Ce que j'ai entendu, c'est que les syndicats, dans toute l'Union européenne, tous les salariés, savent que c'est dans leur intérêt de salariés de la prospérité qu'on a besoin de construire. Et donc, vous voyez, ce combat du président depuis 3 ans, de construire une souveraineté européenne,
oui,
un investissement européen.
Et de la chancelière allemande, Angela Merkel. On dit d'ailleurs que c'est le plan Angela Merkel.
Non, c'est un combat
elle
que
le
depuis
porte, elle
le premier jour, le président, en 2017, avec une grande force, a présenté aux Français. Il dit, je ne fais pas l'Europe pour l'Europe, je fais l'Europe pour vous, les Français. Parce que dans le monde, face à la Chine, face aux États-Unis, ceux qui vous disent qu'on peut s'en sortir seul, la crise qu'on vit aujourd'hui, plus que jamais, nous le montre. Il n'y a pas d'indépendance française, il n'y a pas de souveraineté française si ce n'est pas par l'Europe qu'on l'a construit. Vous savez, le général de Gaulle, à 80 ans, qu'est-ce qu'il nous disait ? Qu'il voulait se battre pour une France indépendante et une France libre. Aujourd'hui,
oui,
on est 80 ans
et
après.
Et il ajoutait la souveraineté. Parce que là, si on vous écoute bien, vous allez faire un saut vers le fédéralisme et vous vous éloignez, si, de la souveraineté, de l'idée phare.
Vous savez, la souveraineté dont parlait Emmanuel Macron, c'est une souveraineté française et européenne.
Elle existe, la souveraineté européenne.
Mais quand on parle d'indépendance
elle ne s'oppose
de la
pas
France,
à la souveraineté française.
Quand on parle d'indépendance de la France sur le plan alimentaire, sur le plan industriel, sur le plan technologique, sur le plan militaire, moi je ne sais pas aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, comment ceux qui vous disent qu'on peut le faire seul à 65 millions sont crédibles. Je pense que c'est un mensonge. Parce que les Chinois, ils nous parlent pourquoi ? Parce qu'ils nous voient arriver en Européens, parce qu'ils voient qu'on est 450 millions. Quand on veut Je pense à transition écologique.
Bah, il nous parle parce qu'on est très, on a été angélique. Hein. Peut-être que c'est fini l'angélisme par rapport à la Chine, par rapport à cette indépendance, mais pour l'instant, on ne s'est pas suffisamment protégé, vous le reconnaissez.
Le combat du président de la République, c'est de créer de la réciprocité. Moi, je ne sais pas comment on crée de la réciprocité entre la France et la Chine. En revanche, je sais comment on a un dialogue ferme, d'engagement, entre l'Europe et la Chine. Et donc, la souveraineté française, cette indépendance, cette liberté, qui était le combat du gaullisme, ce chemin de grandeur qui dit on doit pouvoir peser dans le monde, aujourd'hui au XXIe siècle, c'est
Gaulle.
Par l'Europe qu'on le fait.
L'héritage gaullien, on fait référence à cela. Et justement, hier, lors des commémorations du 18 juin, Emmanuel Macron était aux côtés, Amélie de Montchalin, de Boris Johnson. Mais derrière les images, derrière les commémorations, il y a le Brexit. Est-ce que, oui, le divorce se passe mal?
Il y a deux choses. D'abord, vous voyez bien, les liens d'amitié qu'on a avec les Britanniques, ce n'est pas réductible au Brexit. On a une histoire commune, on a des engagements communs, on a des valeurs communes.
Le no deal semble de plus en plus certain, malheureusement.
D'abord, je crois qu'en toute amitié, ceux qui ont le plus besoin d'un accord, c'est les Britanniques. Parce qu'ils n'ont pas, aujourd'hui, ils ne peuvent pas supporter un deuxième choc après l'épidémie. Ils n'auront pas accès au filet de sécurité qu'est l'Europe, ils n'auront pas accès au fonds de relance dont on vient de parler. Et donc, aujourd'hui, les entreprises britanniques, les salariés britanniques, ils savent bien que... Maintenant,
Ils font pression quand même. Donc ma question, est-ce que vous excluez un no deal aujourd'hui?
Je n'exclus rien, mais nous, on a un mandat clair. On veut protéger nos entreprises, nos pêcheurs, nos agriculteurs. Michel Barnier, il a un mandat porté par les 27 qui, à l'unanimité, lui ont dit avec beaucoup de calme ce dont on avait besoin. Pas pour gagner, pas pour que les Britanniques perdent. Ce qu'on veut, c'est une relation équilibrée.
Mais le no deal n'est pas exclu.
Mais d'ailleurs,
vous savez, rien.
Il y a quelques semaines, à l'Assemblée, au Sénat, on a voté, le gouvernement, j'ai proposé que nous puissions, si nous n'avions pas d'accord, des mesures utiles pour protéger les épargnants, pour protéger notre capacité à commercer. Et évidemment, il y a des secteurs qui sont plus en risque. Mais il y a une chose que je veux vraiment dire aujourd'hui.
Pour conclure.
On ne cédera pas à cette espèce de pression du calendrier, à ce sprint final que veulent nous imposer les Britanniques.
Parce qu'il y a pression.
En espérant que nous céderons. Nous ne voulons pas d'un accord pour un accord. On veut un accord, mais on veut un accord équilibré, un bon accord, un accord protecteur.
Et tout sera discuté, notamment, ce sera tout à l'heure, à partir de 10h, lors de ce sommet européen. Et il est crucial, hein, c'est pas galvaudé de le dire, ce sommet-là. Merci Amélie de Montchalin.
L'Europe avance et je crois qu'on est près du but.
On va le voir, à l'épreuve des faits. Merci à vous, merci d'avoir été notre invité ce matin et bonne journée à vous.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27.
Europe 1.
Dernier week-end de travail pour la Convention citoyenne sur le climat. 150 Français tirés au sort qui doivent formuler des propositions et, je vous le rappelle, Europe 1 vous révélait l'idée du référendum multiple pour conclure cette Convention sur le climat. Dans quelques toutes petites secondes, Laurence Tubiana, directrice de la Fondation européenne pour le climat, co-présidente de la Convention citoyenne pour le climat, et avec vous au 3921 et sur le hashtag Europe 1. Tout de suite.
Europe 1, il est 8h30, vous écoutez Mathieu Béliard et vous échangez avec Laurence Tubiana, la coprésidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Vous réagissez, posez vos questions au 3921 et avec le hashtag Europe 1.
Oui, déjà pas mal de questions sur Twitter notamment. Bonjour Laurence Tubiana.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Dernier week-end de travail pour cette Convention citoyenne pour le climat. Exercice inédit, je le rappelle, on l'a beaucoup répété ce matin, 150 citoyens tirés au sort et qui ont pour mission de réfléchir à la sortie de la crise climatique dans laquelle nous nous trouvons, avec des thématiques, se loger, se déplacer, se nourrir, consommer, produire, travailler. On est à la sortie du grand débat national de la crise des Gilets jaunes, cette idée mise en place, et là on arrive au bout. D'ailleurs, les 150 citoyens, ils sont restés assidus tout le long, ils ont travaillé sur ces questions-là tout au long de ces mois qui se sont écoulés.
Oui, c'est extraordinaire, depuis 9 mois. Alors bon, il était prévu de travailler 5 ou 6 mois, et entre les grèves de décembre et évidemment la crise sanitaire, on a prolongé. Et donc les citoyens, ils sont là depuis octobre, à travailler pendant beaucoup de week-ends, 8 week-ends quasiment, des séances entre les week-ends, des séminaires entre eux, des boucles WhatsApp où ils discutent. Et donc il y a eu un effort d'intelligence collective incroyable pendant 9 mois. Et ils sont là, et ils ont voulu être là physiquement malgré les risques. Malgré le fait que quand même être en province dans une zone verte et venir à Paris, c'est quand même pas évident. Et là, on a 130 citoyens qui seront là physiquement et 20 qui seront à distance pour les plus fragiles.
Et qui vont voter. Et qui vont voter sur des propositions...
Solennellement, individuellement, sur tout ce qu'ils ont fait collectivement. C'est un grand moment d'émotion. Hein. Personnellement, je suis... D'abord, j'ai été complètement bluffée par l'acharnement, le boulot. Aujourd'hui, beaucoup de vos collègues hein, journalistes, quand ils rencontrent les citoyens, ils sont impressionnés parce que les citoyens en savent aujourd'hui beaucoup plus qu'eux sur plein de domaines. Parce qu'ils sont devenus aussi des experts. Et avec un rapport à l'expertise... Vous savez, souvent, on oppose... les citoyens contre les experts, le fait qu'il y aurait l'idée un peu populiste que les citoyens sauraient mieux et qu'au fond, on est en train d'abandonner la qualité de l'expertise scientifique et technique. Les citoyens, ils ont raisonné complètement différemment. Ils ont dit, on a besoin des experts, on ne va pas inventer des solutions. On va regarder ce qui est là, on va juger nous-mêmes ce qui nous paraît le mieux, le plus important et à quelles conditions, surtout sociales, économiques, on peut le faire. Et c'est un point de vue totalement différent, c'est-à-dire... vraiment. Et d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Au début, un peu, bon, voilà, on vient du milieu qui connaît, hein, soi-disant, des sachants. Et notre idée, au début, c'était dire quelles sont les grandes 12 mesures que les citoyens doivent donner. C'est ça le succès de la Convention. Ils arrivent avec 150 propositions. Et pourquoi ? C'est parce que c'est un changement très profond et qu'ils pensent qu'il faut tout toucher. Et donc là où il y a vraiment...
Donc ils ne veulent pas dégager une 4-5 propositions qui pourraient être reprises rapidement.
Ils ne rentrent pas dans le jeu technocratico-politique, pas du tout.
On est d'accord, Laurence Tubiana, que l'enjeu, c'est la suite, parce que cet exercice, il est passionnant, il est enrichissant. Je vois le message de Florence qui nous dit « Espérons un gouvernement ambitieux et courageux, prêt à soutenir et à mettre l'argent nécessaire pour la transition. » L'enjeu, là, maintenant, c'est ce que le gouvernement va décider de faire de ces conclusions.
Absolument. Je dis tout le temps, les citoyens ont été très sérieux, incroyablement sérieux. C'est au gouvernement d'être très sérieux, incroyablement sérieux. Il faut la réciproque. Pour créer de la confiance avec les citoyens, il faut les respecter. Et donc aujourd'hui, on attend quoi ? On attend que le gouvernement, le président de la République, réponde très sérieusement à un engagement qu'il a pris de transmettre sans filtre et de répondre sans filtre à ces 150 propositions. Il y a des propositions qui tiennent vraiment seulement à la responsabilité du gouvernement, qui sont vraiment du domaine réglementaire. Ça, ils peuvent faire.
Rapidement.
Ils n'ont pas besoin d'attendre.
Un décret,
des règlements, il y en a beaucoup. Hein.
Si on veut, quand je vous entends bien, Laurence Tubiana, si on veut, lundi prochain, on a des mesures qui sont prises.
Si on veut, lundi prochain, on peut avoir. En tout cas, bon, laissons-les préparer un peu quand même les textes. il y a vraiment des éléments législatifs qui peuvent aller au Parlement ou au référendum. Et puis, il y a des choses qui, évidemment, il faut choisir un peu ces trois voies, mais il y a un paquet. Et le paquet, il y a tous ces instruments. Il y a le Parlement qui doit faire son travail. Et d'ailleurs, il y a des parlementaires qui se saisissent déjà des mesures qui sont aujourd'hui sur la table et qui disent on va les soutenir. Il y a effectivement des partisans du référendum. On verra ce que disent les citoyens dimanche quand ils vont voter sur leur stratégie dans ce domaine. Et puis, il y a effectivement ce qui relève seulement de la responsabilité du gouvernement.
Sur l'aspect référendum dont nous parlions dès cette semaine sur Europe 1, l'idée d'un référendum avec plusieurs questions, manière peut-être aussi de dépassionner, de dépolitiser le débat, cette piste-là, elle permet aussi de faire valider rapidement par la population des idées qui pourraient paraître impopulaires.
Oui, et c'est certainement une voie importante parce qu'après tout, dans ces changements profonds, et on l'a vu avec le référendum irlandais hein, sur l'avortement, la Convention citoyenne qui avait préparé ça a voté aussi. Et puis le vote des citoyens, on a vu qu'il était extrêmement parallèle. Enfin, qu'il y avait la même proportion de citoyens qui n'avaient pas travaillé, qui se positionnaient sur les questions d'avortement, que ceux qui y avaient travaillé. Bon, là, on est devant une question plus complexe. Hein. Elle a plein d'éléments différents. Et donc, on peut penser qu'un certain nombre de sujets clivants sont... C'est utile, le référendum.
Il est 8h36. Vous restez bien sur Europe 1, la question d'Olivier, je vois dans un instant pour vous, Laurence Tubiana, on parle de ce dernier week-end de travail de la Convention citoyenne pour le climat.
Europe 1, il est 8h38, vous êtes avec Mathieu Béliard et au 39-21, vous dialoguez avec Laurence Tubiana, la coprésidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. On vous lit sur Twitter, hashtag Europe 1.
Ils vont voter hein, ce week-end, les 150 citoyens de cette Convention pour le climat, sur des propositions concrètes. Hein. Il y a du très très concret sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur l'alimentation, la sortie des pesticides, sur la vitesse sur l'autoroute. J'ai vu 110 km/h sur l'autoroute. Voilà, par exemple, une question qui va être soumise au vote. J'ai cela dit ce message d'Olivier. Dans les travaux de la Convention citoyenne, est-il prévu un plan de financement de toutes ces mesures ? C'est vrai que Nicolas Barré nous en parlait dans le journal de 7h. Rien sur la taxe carbone.
Non. Il y a un plan de financement. Il y a beaucoup de mesures qui sont fiscales, en fait, dans les différentes propositions. Même si la taxe carbone en tant que telle, enfin, il y a des choses sur la TGAP, l'augmentation des taxes à l'essieu, le fait que le transport aérien doit payer les taxes sur le fuel. Donc il y a beaucoup de choses sur la fiscalité, en fait. La question sur la taxe carbone, ça a été probablement la manière très maladroite de gérer le débat, très largement d'ailleurs à l'origine par le gouvernement, en disant au fond, c'est aux citoyens, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est aux citoyens de déterminer le montant de cette taxe carbone. Bon, et là, il y a eu un réflexe extraordinairement sain des citoyens qui ont été de dire, nous, on se laisse embarquer par personne. On regarde toutes les solutions. Et du coup, on n'est pas là pour faire le travail du gouvernement. On est là pour dire quelles sont les solutions auxquelles on croit et qui nous semblent possibles et à quelles conditions.
Et ensuite, c'est au gouvernement et à ses techniciens de mettre en place.
Voilà. Alors, ils ont été quand même précis. Ils ont proposé des modifications de la TVA, que par exemple, la TVA sur le train soit réduite, qu'il y ait moins de taxes sur le train. On a vu une société française qui adore le train, qui veut le ferroviaire, qui veut remplacer la voiture individuelle. Moi, j'étais frappée de voir alors qu'on nous présente le modèle des Français, le modèle de progrès, la maison individuelle avec un jardin, la voiture individuelle et plein d'objets, on a vu des gens, la société française, dire il faut qu'on mette fin à l'usage individuel de la voiture. Bon, quand même. Alors, avec des mesures pour essayer d'y aller. On a vu aussi des gens qui disent il faut construire la ville sur la ville, arrêter vraiment l'envahissement du territoire. Ils ont été là, et ce qu'ils vont voter, c'est de dire éventuellement on interdit les nouveaux centres commerciaux à l'extérieur des villes, on arrête l'artificialisation des terres. Bon, c'est pas une société.
C'est pas la société qu'on a aujourd'hui, en tout cas.
Nous, on est celle qu'on imagine qui est.
Celle qu'on imagine. Repenser la politique commerciale, j'ai vu notamment le CETA. La question de Thomas qui va avec cette question des accords de libre-échange, finalement. Est-ce que le confinement et les réflexions sur le monde d'après ont changé leur manière de travailler dans la dernière ligne droite?
Je pense que le confinement les a amenés à réfléchir encore plus sur l'urgence du changement et les liens entre crise écologique et crise sanitaire. Ça, c'est clair. Lorsque tout le monde s'est réuni le 3 et le 4 avril à distance pour proposer des mesures dans le cadre du plan d'urgence du gouvernement, donc d'extraire de leurs propositions ce qui devrait être dans le plan d'urgence, et c'était assez précis. Alors, il y a des choses qui ont été reprises et d'autres, évidemment, pas du tout. Ils se sont dit, en fait, les choses sont plus graves, sont encore plus graves. Et ce sentiment de gravité croissante, de crise croissante, il est là depuis octobre, mais on a vu les citoyens être de plus en plus déterminés et de plus en plus conscients qu'il faut faire des changements profonds et que c'est inévitable. Et ça, effectivement, la crise y a contribué.
Laurent Subiana, j'en terminerai par là. Vous étiez l'envoyé spécial de la France dans les négociations au moment de la COP21. Est-ce que c'est plus facile de travailler avec des diplomates réunis du monde entier ou avec 150 citoyens tirés au sort?
C'est pas fondamentalement différent parce qu'au fond, c'est des personnes. Les diplomates, c'est des personnes. Et tant qu'ils défendent leurs intérêts ou leur vision étroite, c'est très difficile de négocier. Puis il y a un moment, il y a une petite bascule qui se fait, auquel j'ai assisté, où les gens se disent, bon, on est enfin devant un problème plus grand que nous, et il faut qu'on sorte de notre rôle, de notre vision étroite. Les citoyens, ils ont fait ça beaucoup plus vite que les diplomates, ça je peux dire. mais c'est ça, c'est aussi des personnes qui, chacun évidemment avec, encore une fois, le statut, les problèmes de TVA du petit entrepreneur, les problèmes de voiture de l'infirmière qui doit se déplacer... Et puis tout d'un coup, ils se disent, bon, ok, on a ça, mais il faut qu'on regarde plus loin. Et ça, c'est bouleversant. Moi, ça me bouleverse de voir ça. Et je peux dire que j'ai été très bouleversée par voir ces diplomates bureaucrates se dire, bon, il faut qu'on sorte de notre intérêt national étroit. Mais là, les citoyens, ils ont été beaucoup plus vite et j'en étais très heureuse.
Laurence Tubiana, merci beaucoup. Bon week-end de travail.
Merci.
Avec ces 150 citoyens qui vont voter ce week-end. Directrice de la Fondation européenne pour le climat, Laurence Tubiana, coprésidente de la Convention citoyenne pour le climat. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à celles de nos auditeurs ce matin. Et bon week-end de travail à vous alors. Il est 8h43.
Europe 1. Vous restez pour la revue de presse. Nicolas Canteloup et Julie arrivent sur Europe 1. Europe 1, 8h46.
Et ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup.
Bah, c'est à vous, on continue à rire avec vous, Mathieu Béliard.
Allons-y. Oui, bonjour, 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 ma chère Julie, rebonjour. Bienvenue, bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez. L'info du jour, c'est la Convention citoyenne sur le climat qui va rendre ses propositions ce week-end. Et Europe 1 vous a révélé que le président n'était pas contre un référendum, notamment sur l'obligation d'isoler son logement. Voilà, le référendum, c'est pas pour l'aéroport de Paris, c'est pas pour le glyphosate, c'est pas pour les services publics, c'est pour le double vitrage. Voilà. Les trucs graves, on n'est pas au niveau, mais les fenêtres, c'est encore à notre portée. Et puis, faisons aussi du bilan, un bilan des commémorations de l'appel du 18 juin hier, comme d'ailleurs Sonia Mabrouk vient de le faire avec son invité, Amélie de Montchalin. Toutes les personnalités politiques de tous bords ont d'ailleurs revendiqué l'héritage du général de Gaulle. Alors, qui est vraiment gaulliste aujourd'hui? C'est la vraie question.
Ici le paradis.
Voilà.
Ici le paradis.
Bonjour mon général.
Bonjour ma petite Julie.
Oula.
Bonjour monsieur Mathieu.
Oui.
J'ai vu que madame Le Pen se revendiquait de mon héritage. Je peux vous dire que illico presto, je me suis retourné dans ma tombe. Gilbert Collard s'est aussi revendiqué. Je me suis donc retourné dans ma tombe.
Ah bon, bah il est dans...
Après, j'ai lu les tweets d'un militant du Rassemblement National, je me suis encore retourné dans ma... En fait, j'en suis à 4000 tours minute. Aujourd'hui, je parle au garagiste Béliard, je suis une véritable Twingo, un moteur de Twingo, 4000 tours minute. Pauvre imbécile. Vous n'avez rien à voir avec le gaullisme. Votre héritage à vous, ce n'est pas le gaullisme, c'est le gogolisme.
Oh, magnifique, mon général. Merci beaucoup.
C'est un nouveau personnage, Nicolas.
Oui, oui, oui.
Nouveau, nouveau.
Allez, on en parlait dans le journal de 8 heures, les municipales et les soupçons de fraude électorale à Marseille. Jean-Claude Godin, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour. Oh, ça... Je ne l'admettrai pas, madame Leclerc.
Quoi?
On ne volera pas, je vous le dis tout de go sur votre antenne, Europe numéro 1, on ne volera pas le scrutin aux Marseillaises et aux Marseillais. Je demande l'exclusion, vous m'entendez? Je demande l'exclusion immédiate de cet ignoble tricheur.
Non, enfin, ça concerne votre camp, les Républicains. C'est votre candidate, Martine Vassal, qui est soupçonnée. Mais oui, c'est elle qui est censée vous remplacer. Hein.
Ah bon?
Bah oui.
Ah merde, mais on est... Ah bon?
Comme
oui,
vous dites,
non, mais attendez, non, mais on est sûr qu'elle a triché, cette pauvre dame? C'est pas encore une cabale de journalistes parisiens, parce qu'on a l'habitude à Marseille.
Non, c'est ça, oui. Alors, en tout cas, c'est la justice enquête hein, sur des procurations de vote frauduleuses pour faire voter des personnes malades d'Alzheimer.
Pour faire voter des personnes. Oula! Ouais. Ouh! Alors là, ça, c'est carrément tordu, ça!
Ah ouais,
bon, mais alors, ça veut dire qu'elle cherche à montrer. Quelque part, en trouvant ce stratagème, qu'elle est digne de ma succession. Hein. Déjà, perquisitionnée pour des procurations bidons, alors qu'elle n'est même pas élue. Non, ça, c'est... Ah, mais c'est une vraie, une pure, une vraie, une dure, ça. Bravo, ma poulette.
Alors, elle plaide une erreur et elle dit qu'elle va regarder ça de plus près.
Mais c'est fantastique. C'est fantastique. Alors là, vous me... Non, alors là, elle a déjà tout compris, vous savez... Je vais vous dire une chose, j'étais sceptique au début, j'avais même dit aux cousins Palticino et aux frères Milacciani, si jamais la pauvrette est élue, soyez sympa avec elle, ne la coulez pas tout de suite en du béton, laissez-lui au moins exercer le mandat quelques semaines. Et en fait, elle est en train de nous épater, donc je dis bravo à... Bravo machine, bienvenue à la mairie,
Martine.
Machine.
Oui. Martine, bah, attendez, elle n'est pas encore élue. Hein. On aide, ou alors les urnes sont déjà bourrées. Moi aussi.
Oui, il n'y a pas que les urnes qui sont bourrées ce matin. Hein.
Non. Je ne trouvais plus la ligne.
Non, mais oui, j'ai compris. Oui, mais oui, vous n'avez pas les urnes parce qu'on a fêté un petit truc hier soir. Bon, alors, écoutez, enfin, oui, taisez-vous, Gourgandine. Écoutez, ça devait être une... Non, écoutez, madame Jules, et on va tout se dire, ça devait être une surprise. Ne gâchez pas tout. Allons, les urnes...
Bon, voilà. Allez, c'est bon. Merci,
oui.
Monsieur Godin.
On a fait une chute un peu catastrophique. Je pense que l'auditeur ne s'y retrouve pas. Hein.
Merci, à bientôt, monsieur Godin.
Oui, pas sûr.
Emmanuel Macron était hier à Londres pour commémorer l'appel du 18 juin. Bonjour, monsieur le président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de rattraper le niveau. Alors, De Gaulle. Alors, De Gaulle, on va parler de Gaulle. Bon, écoutez, on va faire bien sûr solennel. Bon. Messieurs, s'il vous plaît, vous me rebranchez la fontaine derrière pour faire joli. Hein, et vous remettez la dame qui bouge les mains pour les sourds. Et vous, bien sûr, vous remettez la Marseillaise. Donc. Françaises, Français, rendons hommage ensemble à tous ces héros qui se sont battus pour notre pays. Tous celles et ceux et celles, chacun, chacune, ces généraux qui génèrent, ces capitaines qui capitulent, ces militaires qui militent. Rendons hommage aux gaullistes qui sommeillent en chacun, je le crois, en chacun de nous, et qui nous dit « Résiste, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, bats-toi, signe et persiste. »
Mais c'est France Gall, ça, vous mélangez tout.
Oui, bon, écoutez, un texte de Gaulle ou de Gall, c'est exactement pareil.
Alors... Vous avez remis la Légion d'honneur. Vous avez remis la Légion d'honneur à la ville de Londres.
Voilà, j'ai remis la Légion d'honneur à Londres, qui est désormais, donc vous l'aurez compris, au même niveau que Gilbert Montagnier, Adil Rami ou Jeanne Balibar, qui ont été décorés également. Oui, Londres. Londres est au même niveau que Gilbert Montagnier. Londres que les nazis ont bombardé, saccagé. Vous savez que j'ai vu des photos. C'était stupéfiant. On aurait dit Dijon après le passage des Tchétchènes.
Oui, enfin bon, peut-être pas quand même. Merci, monsieur le président. Bonne journée.
J'en prie.
Depuis lundi, on essaie d'avoir François Hollande pour commenter l'allocution d'Emmanuel Macron de dimanche soir. Il a même été coupé hier, mais on est désolé. Bonjour, monsieur Hollande.
Oui, j'attends depuis lundi matin pour faire mon intervention qui, vous le verrez, sera brillante. Lundi 15 juin, pour dire du mal de Macron dans votre émission, j'ai attendu. Hein. J'ai mon ticket. Madame Roche, j'ai le 96. Hein.
Dans la file d'attente, 96.
Oui, bien sûr. Pourquoi pourquoi qu'est-ce qu'il y a, monsieur Cabrol? 96, non, ce n'est pas le poids. Non, 96, c'est mon numéro.
Bon, pardon, excusez-nous, on n'a pas eu le temps de vous entendre. Alors, vous l'avez trouvé comment, dites-nous maintenant, Emmanuel Macron?
Ça fait un peu réchauffer maintenant.
Oh, hein. Non, ça ira.
Analyser le discours du dimanche à vendredi, l'auditeur va se demander ce qu'on fout.
Oh, il est vexé.
Et un petit peu, je dois dire. Voilà. Écoutez, comment dire, j'étais dimanche soir, en regardant le président de la République, j'étais agréablement déçu.
Ah, c'est joli comme ça.
Écoutez, je ne m'attendais à rien et j'étais servi. Il a été d'un chien. Mais d'un chien, c'est simple, on aurait dit moi. Alors si, quand même, j'ai noté sur le plan formel quelque chose dans la réalisation qui m'a bien plu. Il y avait un truc bien, c'est qu'il y avait une jolie fontaine qui coulait. Ça, sur le côté, c'était bien. Mais le problème, c'est qu'à la technique, à la régie, dans la réalisation, à l'écran, on voyait, ils avaient également la dame qui fait la femme qui fait le langage des signes.
Oui.
Le problème, c'est qu'elle était collée juste devant la fontaine.
Oui, bon.
Oui, mais du coup, ça faisait bizarre, cette femme fontaine, quand même.
Oh, non.
À 20h, une heure de grande écoute, devant des millions de Français.
Monsieur Hollande, qu'est-ce que c'est que
oui,
ça?
Oui, c'est pas le genre de la maison, mais de temps en temps.
Mais franchement, allez.
En fin de saison, madame.
Non, c'est pas une raison. Allez, restons sur l'allocution. Vous trouvez...
Oui, mais ça fait rire, quand même. À la rédacte derrière la vitre, je vois les journalistes qui sourit. Je pense qu'il manque ce type d'humour à l'antenne.
Allez, on revient à l'allocution. Vous trouvez que ça manquait d'annonce? Qu'est-ce qu'il y avait?
Quoi? Ah, mais ça ne manquait pas d'annonce du tout, vu qu'il n'y en a pas eu. Si c'était pour convoquer toute la France pour dire retournez au resto, manger des légumes et bon appétit, hein, ça n'est pas la peine de nous retarder le film du dimanche soir. Non, je crois que les Français rêvent aujourd'hui et regrettent le monde d'avant. Et le monde d'avant, c'était qui, souvenez-vous?
C'était...
J'ai une petite idée, moi.
Oui,
bah c'était Bibi.
Mais oui, c'était Bibi. Oui.
C'était vous, Bibi. Oui, mais si vous le dites
voilà,
pas,
c'est moins drôle que la femme fontaine. Mais voilà, on aurait dû s'arrêter plus haut.
Allez, merci. Merci Monsieur Hollande. À bientôt.
Oui, merci.
Arnaud Montebourg était en Bretagne cette semaine pour développer sa marque de glace, vous savez, qui s'intitule La Mémère. Bonjour Arnaud Montebourg.
Oui, ah, salut aux jeunes entrepreneurs Béliard, salut à Julie. Oui. Quelqu'un veut-il une glace dans le studio?
Regardez-moi.
Sentez-moi. Regardez, sentez-moi, c'est pas...
C'est parfum.
Sentez-moi, c'est parfum. Mmh. Tiens, Béliard, viens renifler un peu ma mémère. T'en veux ?
Oh non ! Alors, dit comme ça. Non. Alors.
Hey, c'est pas mieux que moi.
Vous avez inauguré un atelier de fabrication en Bretagne pour des glaces bio, équitables et paysannes.
Tu l'as dit, la glace bio, la glace équitable, paysanne. La glace paysanne, ma Juju. Hein, des glaces paysannes, bio élevées en plein air. Nourries au grain, qui gambadent en plein champ sur leur petit bâtonnet, à une jambe. Et ensuite, tu sais quoi, j'irai les vendre dans toute la Bretagne. Mm-hmm. Parce que c'est sympa de se manger sa petite glace sous la pluie. Hein.
Oh,
allez, bon, je vous laisse, j'ai du boulot. Et des glaces, esquimaux, chocolat, esquimaux, chocolat glacé, les beignets, les chouchous, des boissons fraîches. Allez, j'ai des parfums. Un chocolat vanille, je sais plus. Bon, enfin, qui veut ma mémère ?
Fraise, citron, ben, je sais pas moi.
J'ai pas de pistache.
Moi, tout ce que tu veux.
Rhum raisin, moi je prendrais.
C'est ma préférée aussi. Si l'émission arrivait pas à son terme, j'aurais lancé là sur le hashtag Europe 1 votre glace préférée. Mais du coup, c'est rhum raisin qui a gagné. C'est comme ça. Merci Nicolas Cantelou, la revue de presse. Et bravo aussi aux auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche. Philippe Vandel est avec nous, Culture Média, c'est la matinée qui continue de 9h à 11h. Bonjour Philippe.
Bonjour, on sera avec le patron de la SACEM qui va parler à quel point, pardon pour cette phrase, la filière musicale est affectée. 4,5 milliards.
Noix de coco, il y a la noix de coco, il y a la noix de coco.
Oui, il y a la noix de coco aussi.
Parfait, chocolat, allez-y.
Donc le patron de la SACEM, le romancier Jean-Christophe Ruffin et Philippe Glohagen pour le guide du routard. On déconfine, mais en France.
Très belle matinée à vous avec Philippe Vandel, Culture Média.
Ce type est fou.
On va aller manger une glace avec Nicolas Cantelou. Hein. Je vois que ça embline.
Rhum raisin, qui veut du rhum raisin ?
Rhum raisin, et puis après on se retrouve lundi ?
Lundi matin.
5h.
Oui, moi à 6h.
On prend ça.
Je serai là à 6h. Je vais pas la rater quand même, la dernière de la semaine. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.
C'était Mathieu Béliard sur Europe 1.
Très bien. Europe 1.